Mais ma période de débauchette s'achevait. Je commençais à avoir la nausée. Le remords arrivait. Je le repoussais. J'avais trop la nausée. Et néanmoins, petit à petit, je m'habituais même à ça. Je m'habituais à tout. C'est-à-dire, je ne m'habituais pas, mais je ne sais pas, j'acceptais volontairement de supporter. Et j'avais une issue pour ramener la paix, c'était me réfugier dans le beau et le sublime. En rêve, évidemment. Je rêvais d'une façon terrible. Je rêvais 3 mois de suite, rancogné dans mon trou. Et croyez-moi, à ces minutes-là, je ne ressemblais plus à ce monsieur qui, son cœur de poule mouillée en pleine déconfiture, cousait au col de son manteau du castor allemand. Je devenais brusquement un héros. À ces minutes-là, si mon grenadier de lieutenant était venu me rendre visite, je ne l'aurais même pas reçu. Je ne pouvais même plus me l'imaginer dans ces moments. Ce que c'était que mes rêves et comment je pouvais m'en satisfaire, j'aurais du mal à le dire maintenant. Mais à l'époque, je m'en satisfaisais. D'ailleurs, même aujourd'hui, je m'en satisfais, plus ou moins. Les rêves les plus doux et les plus forts me survenaient après mes débauchettes. Ils survenaient en même temps que les remords et les larmes, avec les malédictions et les élans. Je vivais des instants d'une plénitude tellement jubilatoire, d'un bonheur si profond que je ne sentais même plus, je vous le jure, le moindre des sarcasmes. La foi, l'espérance, l'amour. Vraiment, vous comprenez, je croyais aveuglément que, par je ne sais quel miracle, par je ne sais quelle circonstance extérieure, tout viendrait d'un seul coup s'ouvrir, s'épanouir. Je verrais d'un seul coup un horizon d'exploit qui me correspondrait, des choses bénéfiques, belles, et surtout déjà toutes prêtes. Lesquelles précisément, je ne savais pas, mais l'essentiel était cela, toutes prêtes. J'apparaissais soudain à la lumière, tout juste si je n'étais pas sur un cheval blanc couronné de lauriers. Un rôle secondaire, c'était hors de mon entendement. Voilà pourquoi, dans la réalité, j'occupais tranquillement le dernier. Soit un héros, soit une ordure, pas de milieu. C'est bien cela qui m'a perdu, parce que, dans mon ordure, je me consolais en disant qu'il m'arrivait d'être un héros, et ce héros me dissimulait l'ordure. D'habitude, n'est-ce pas, les gens ont honte de se salir. Mais le héros, il est trop haut pour se salir complètement. On peut donc se salir un petit peu. Le plus remarquable était que ces accès de beau et de sublime m'arrivaient au milieu de mes débauchettes, au moment même où je me retrouvais le plus au fond. Ils arrivaient comme ça, de loin en loin, par éclairs. Mais leur apparition n'anéantissait pas pour autant la débauchette. Au contraire, celle-ci ne faisait que la renforcer, comme par contraste, et leur intensité suffisait juste pour que la sauce soit bonne. La sauce ici, elle était faite des contradictions et des souffrances, du martyre que devenait l'analyse intérieure. Toutes ces torturettes donnaient je ne sais quel piquant, je dirais même un sens, à ma débauche. Bref, elle remplissait parfaitement la fonction d'une bonne sauce. Tout cela, même, n'allait pas sans une certaine profondeur. Car quoi ? Comment aurais-je pu me contenter d'une sale petite débauche bien simple, bien banale, directe, d'une débauche de greffier, et supporter sur moi toute cette ordure ? Qu'est-ce donc qui aurait pu me plaire en elle, me tenter tellement qu'elle m'aimantait dehors en pleine nuit ? Non, messieurs, dans tous les cas, je savais me ménager une issue qui ne manquait pas de noblesse. Mais que d'amour, mon Dieu ! Oh, que d'amour je ressentais, parfois, dans mes rêveries, dans ces sauvetages par le beau et le sublime. Un amour fantastique, bien sûr, qui ne s'est jamais appliqué concrètement à rien d'humain. Mais il y en avait tant de cet amour que concrètement, après, je n'éprouvais même pas le besoin de l'appliquer. Ça aurait été vraiment un trop grand luxe. D'ailleurs, tout se terminait toujours le mieux du monde, par un passage paresseux et enivrant vers l'art, je veux dire vers les formes les plus belles de l'existence, formes toujours toutes prêtes, fortement volées chez les poètes et les romanciers, et adaptées à toutes les demandes, à tous les services. Par exemple, je triomphe du monde entier. Le monde entier, bien sûr, se retrouve dans la poussière et se voit obligé de reconnaître toutes mes perfections. Et moi, je leur pardonne à tous. Je tombe amoureux alors que je suis un poète célèbre et chambellan. Je reçois des masses de millions, j'en fais une offrande immédiate au genre humain, et, devant le peuple assemblé, je confesse mes hontes, lesquelles hontes, bien sûr, ne sont pas que des hontes, car elles contiennent une quantité impressionnante de beaux et de sublimes, le genre Manfred. Ils pleurent tous et ils m'embrassent, sans quoi ils seraient vraiment des crétins. Et moi, pieds nus, le ventre creux, je pars répandre les idées nouvelles et je bats les rétrogrades à Austerlitz. Après, on joue une marche, on décrète l'amnistie. Le pape accepte de quitter Rome pour le Brésil, puis c'est un bal pour toute l'Italie à la Villa Borghese, laquelle se trouve au bord du lac de Côme, puisque le lac de Côme est transféré à Rome pour la circonstance. Après, une scène dans les buissons, etc., comme si vous ne saviez pas. Vous direz que c'est vulgaire et que c'est vil de ramener tout ça maintenant, comme à la foire, après toutes les ivresses et les larmes que je viens d'avouer. C'est vil? Et pourquoi donc, messieurs? Vous pensez vraiment que j'ai honte? Et que c'était plus bête que n'importe quel épisode de votre vie à vous? Et je vous prie de croire qu'il y avait des choses que je me représentais assez bien. Tout ne se passait pas au bord du lac de Côme, quand même. Encore que, oui, vous ayez raison. C'est vrai que c'est vulgaire et que c'est vil. Et le plus vil, c'est que je viens de commencer à me justifier devant vous. Et le plus vil encore, c'est que je viens de faire cette remarque. Mais ça suffit, on n'en finirait pas. Sinon, de plus en plus vil. J'étais absolument hors d'état de rêver 3 mois de suite, sans ressentir un besoin irrépressible de me précipiter dans le monde. Me précipiter dans le monde, cela voulait dire pour moi rendre visite à mon chef de bureau, Anton Antonitch Setochkin. C'était l'unique connaissance que j'ai gardée toute ma vie, un fait qui, aujourd'hui encore, ne laisse pas de m'étonner. Mais même lui, je n'allais le voir qu'au moment où j'en arrivais à une période où, mes rêves en arrivant aussi à une telle béatitude, il me fallait, immédiatement, et quoi qu'il dût m'en coûter, aller étreindre les humains et toute l'humanité. Et pour cela, il fallait avoir au moins une personne à étreindre pour de vrai, quelqu'un de chair et d'os. D'ailleurs, c'est le mardi, son jour, qu'il fallait se présenter chez Anton Antonitch. Je devais donc faire coïncider ses envies d'étreinte universelle avec un jour précis. Anton Antonitch habitait aux 5 coins, un 3e étage, 4 petites pièces, base de plafond, de l'apparence la plus jaune et la plus économe. Il avait 2 filles, ainsi que leur tante, laquelle versait le thé. Ses filles, l'une avait 13 ans, la seconde 14, au petit nez en trompette, elles me faisaient rougir horriblement parce qu'elles n'arrêtaient pas de chuchoter entre elles et de pouffer en douce. Le maître de maison restait le plus souvent dans son bureau, sur un canapé en cuir, devant une table avec je ne sais quel hôte aux cheveux blancs, un fonctionnaire de notre département, ou même d'un autre. Je n'ai jamais vu chez lui plus de 2 ou 3 invités, et toujours les mêmes. Il parlait des impôts indirects, des marchandages au Sénat, du salaire, de l'avancement de son excellence, du moyen de plaire, etc. J'avais la patience de rester comme un idiot auprès de ces gens-là près de 4 heures de suite, et je les écoutais, sans oser ou sans savoir comment ouvrir la bouche. Je perdais tous mes moyens, je me mettais plusieurs fois à suer. J'avais peur de rester tétanisé, mais c'était bien et très utile. Rentré à la maison, je renonçais un certain temps à mon désir d'étreindre toute l'humanité. Pourtant, j'avais encore ou je semblais avoir une autre connaissance, Simonov, un ancien camarade d'école. Des camarades d'école, j'en avais plein sans doute à Pétersbourg, mais je ne les fréquentais pas, j'avais même cessé de les saluer dans la rue. Voilà pourquoi j'avais changé de département, peut-être pour ne plus être avec eux et rompre une fois pour toutes avec cette enfance que je haïssais tant. Malédiction sur cette école, sur ces années de bagne monstrueuse. Bref, je m'étais séparé de mes camarades sitôt que je m'étais retrouvé à l'air libre. Il n'y avait plus que 2 ou 3 personnes avec lesquelles j'échangeais un salut quand je les rencontrais. Parmi elles se trouvait Simonov, qui ne se distinguait en rien à l'école, était d'humeur égale et douce, mais j'avais distingué en lui une certaine indépendance de caractère, voire de l'honnêteté. Même, je ne crois pas qu'il fût particulièrement limité. J'avais connu avec lui, dans le temps, des minutes assez claires, mais elles n'avaient guère duré et s'étaient brusquement recouvertes de brouillard. Ses souvenirs devaient sans doute lui peser, et je crois qu'il avait toujours peur que je ne reprenne le ton que j'avais eu. Je soupçonnais que je le dégoûtais, et cependant j'allais le voir parce que je n'étais pas sûr. Donc, un jour, un jeudi, ne supportant plus ma solitude, et sachant que la porte d'Anton Antonitch était fermée le jeudi, je me suis souvenu de Simonov. En montant chez lui jusqu'au troisième, je pensais justement que je devais lui peser à ce monsieur, et que j'avais tort d'aller le voir. Mais comme ce genre de réflexion se terminait toujours, comme par hasard, par une envie encore plus forte de me fourrer dans une histoire trouble, je suis entré. Je n'avais pas revu Simonov depuis un an, ou presque.